Présente dans 15 pays d'Afrique, Suno Assurance vous souhaite une belle année 2018 pleine d'assurance et vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Igor Strauss.
Bonjour à tous et bienvenue dans Priorité Santé. Leur initiative n'est pas passée inaperçue. C'était il y a 2 semaines, un millier de médecins et de cadres hospitaliers signaient une tribune pour alerter sur l'actuelle crise que traverse l'hôpital français. De Brest à Créteil, de Grenoble à Roubaix, tous s'inquiètent du nouveau tour de vis qui s'annonce pour cette année 2018. Rigueur, équilibre, rentabilité, réduction des effectifs. Comment imaginer que ces impératifs financiers puissent ne pas menacer la qualité des soins prodigués par des personnels déjà épuisés? Cette tribune dénonce donc les dérives du système actuel qui a voulu ces dernières années assimiler l'hôpital à une entreprise comme les autres et propose des pistes concrètes pour que la tarification des actes soit limitée, que les modes de financement soient diversifiés, que l'équilibre territorial garanti, comme serait garanti le nombre de soignants. Les arguments ne sont pas toujours simples à saisir avec des termes techniques, des enjeux comptables et un jargon propre à cette gigantesque mécanique. L'hôpital français, une énorme machine à la fois précieuse et fragile qui, à force de vouloir rouler droit, en finirait presque par oublier pour qui elle roule. Et pour parler de ce vaste sujet, nous accueillons 3 des signataires de cette tribune. Le professeur André Grimaldi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous. Vous êtes professeur émérite de diabétologie au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Avec nous également dans ce studio, le docteur Sophie Crozier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue au service des urgences cérébrovasculaires à la Pitié-Salpêtrière également. Et Claire Delage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cadre de santé à l'hôpital public. Professeur André Grimaldi, vous êtes donc l'un des initiateurs de cette tribune. Et cette tribune, finalement, c'est un manifeste en faveur d'un hôpital public déjà en crise, à qui l'on promet finalement une nouvelle cure de rigueur.
Oui, comme vous l'avez dit, depuis plus de 10 ans, on traite l'hôpital comme si c'était une entreprise commerciale qui cherche à vendre. Et donc, on met des tarifs, et quand on dit tarification à l'activité, ce qu'on veut dire, c'est tarification au séjour. Il faut faire de plus en plus de séjours, et des séjours de plus en plus courts. Alors, évidemment, tout ça, vous dites, on a augmenté l'activité, mais le budget, lui, il est limité. Chaque année, l'Assemblée nationale vote un budget limité. Ce qui fait que vous augmentez l'activité, mais on vous baisse les tarifs.
Alors, pour être très précis...
Vous rentrez dans un système de complètement fou. Pour s'en sortir, il faut de plus en plus d'activités, mais plus il y a d'activités, plus on baisse les tarifs. Bon, et donc vous ne devez pas augmenter le personnel, donc le personnel il doit travailler de plus en plus. Il faut optimiser l'organisation, c'est-à-dire qu'une infirmière peut passer d'un service à un autre. Bon, donc il y a un système complètement qui arrive au bout. Là, la ministre l'a dit.
Oui, elle l'a reconnu dans un papier dans Libération.
On est à la fin d'un système. Mmh. Alors maintenant, le choix il est en 2 versions. Soit on va jusqu'au bout de cette logique-là et on transforme l'hôpital en clinique commerciale, qui pourra embaucher de manière contractuelle, payer très cher un chirurgien, moins cher un autre, faire des primes à l'activité, choisir ses activités, en choisissant des activités rentables, en disant, je ne veux pas m'occuper de personnes âgées, c'est pas rentable, je veux
faire
de la chirurgie de l'obésité,
par an,
c'est rentable,
par exemple,
ou... je veux faire de la chirurgie de la thyroïde, c'est rentable, ou je veux faire ci et pas ça. Bon, ce qui n'est pas contestable, la cataracte ambulatoire, on peut faire ça un peu à la chaîne, bon, mais ce n'est pas l'hôpital public. Ou bien on revient à un service public basé sur des équipes.
Docteur Sophie Crozier, le professeur parlait du budget, mais justement on a 2% de hausse du budget, mais 4% de dépenses supplémentaires. Et donc finalement c'est quoi? C'est 1,6 milliard d'euros que l'État demande d'économiser. Est-ce que l'hôpital peut fonctionner dans ces conditions? On a bien compris que non, d'après le professeur Grimaldi. Mais concrètement, comment ça se traduit dans les faits?
Dans les faits, c'est exactement ce que vient de dire André Grimaldi, c'est que nous sommes amenés à choisir dans les hôpitaux des activités qui sont rentables d'un point de vue de, surtout principalement des actes qui sont effectués. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est ce qu'on entend par la tarification à l'activité, c'est qu'actuellement, ce qui est valorisé, ce sont des actes techniques. Ça n'est pas la prise en charge d'un patient, de l'écoute d'un patient, de tenir la main d'un patient, de pouvoir lui expliquer, de faire de la prévention. Tout ça n'est pas valorisé. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que notre travail de soignant, il est valorisé par cette tarification à l'activité. Depuis plus de 10 ans, finalement, nos actions médicales sont guidées par cet objectif d'augmenter l'activité, de mettre en place, et ça c'est très grave, à la fois d'un point de vue des choix des activités dans les hôpitaux. Depuis des années, on a vu se transformer l'hôpital, c'est-à-dire qu'il y a des activités qui n'existaient plus tellement, qui n'étaient plus les missions de l'hôpital public, parce que c'est ça ce qui nous inquiète aujourd'hui. C'est quelles sont les missions de l'hôpital public? Les missions de l'hôpital public, c'est pas de justement d'augmenter le chiffre et la rentabilité des hôpitaux.
Ça, c'est pour une clinique privée, mais pas pour le public.
Voilà. Alors, bon, voilà. Et puis, déjà, d'une façon générale, c'est vrai que nous, ça nous questionne aussi sur notre rôle de soignant, sur les valeurs qu'on a, et sur ce qui fait que tous les jours, on se lève et qu'on a envie de venir travailler et de prodiguer des soins. C'est pas d'augmenter la rentabilité de notre hôpital. C'est avant tout, et ça, c'est ce qu'on demande principalement aussi à la ministre, mais je pense qu'elle en est tout à fait consciente, c'est que les choix des activités dans les hôpitaux soient non pas guidés par leur rentabilité, mais soient guidés par les besoins de santé, les besoins sanitaires de la population. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, on nous pousse à faire des activités qui ne répondent pas forcément aux besoins des patients. Et dans notre quotidien, on n'est plus en capacité de répondre même à des besoins de base, c'est-à-dire de pouvoir prendre du temps auprès des patients, que ce soit pour les infirmières, les aides-soignants ou pour les médecins.
Et justement, Claire Delage, retrouver côte à côte dans une même mobilisation les médecins et le personnel soignant, c'est assez rare pour être souligné. Ça peut faire évoluer les choses, ça concrètement ou pas?
Bien sûr, parce qu'on a besoin de travailler en équipe et on a besoin d'être tous ensemble auprès des patients pour pouvoir prodiguer des soins de qualité. Et ça concerne tous les personnels.
Oui, mais justement, l'union fait la force. Et d'habitude, chacun manifestait dans son coin, j'ai envie de dire, les infirmières d'un côté, les médecins de l'autre.
Le sujet est le même au jour d'aujourd'hui. La réduction en personnel touche tout le monde. Ça touche les services supports et ça touche aussi les équipes soignantes.
Alors, on a parlé des propos de la ministre Agnès Buzyn. Je vais vous lire tout simplement ce qu'elle a déclaré dans le journal Libération et ça nous permettra d'expliquer plus concrètement ce qu'est la T2A, la tarification à l'activité. Elle dit, la ministre, je cite, la tarification à l'activité est un système qui a fait croire à l'hôpital public qu'il devait se concentrer sur des activités rentables, qu'il devait se sentir une âme d'entreprise. Nous avons risqué de faire perdre le sens de la mission à l'hôpital aux équipes en leur faisant croire qu'elles ne devaient faire que de la rentabilité. Les équipes hospitalières ont été malheureuses de ce virage et cette logique est arrivée à son terme. Fermez les guillemets. Finalement, c'est ce que vous disiez déjà, professeur André Grimaldi, sur cette T2A à l'époque.
Oui, c'est nous, on alerte depuis une dizaine d'années.
Expliquez-nous très concrètement de quoi il s'agit pour nos auditeurs qui ne connaissent pas. En fait, c'est un acte, un prix, c'est ça?
Pas tout à fait, mais presque ça. C'est-à-dire plutôt un séjour, un prix. Écoutez, il y a 3 façons de payer un hôpital. Hein. On peut payer à la journée, comme dans un hôtel. Bon, on peut payer avec une dotation, avec un budget. Hein. Vous avez un budget annuel qui correspond à votre activité, comme on fait pour l'armée ou qu'on fait l'éducation nationale. C'est un budget. Et puis, on peut payer à l'activité. C'est-à-dire, vous dites à l'acte, c'est un peu semblable, c'est-à-dire exactement au séjour. Mais pour que le séjour, à ce moment-là, soit rentable, il faut qu'il soit court. Donc, ce que disait tout à l'heure Sophie Crozier, c'est, par exemple, un diabétique hospitalisé. Ben, s'il connaît mal sa maladie, il faut la lui expliquer, il faut qu'il apprenne à se traiter. Bon, mais si vous avez pas le temps, si vous êtes 2 jours, il sort, il est pas éduqué, les infirmières disent, mais enfin, il va pas savoir faire. C'est pas grave, il reviendra. Ça fait de l'activité. Si vous faites de la prévention, ben, c'est pas très bien. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est faire de l'activité, que les malades reviennent. Hein. Donc, c'est complètement fou. Quand on parle d'hospitalocentrisme, mais alors la tarification au séjour qui amène à plus en plus de séjours, c'est l'hospitalocentrisme. On pousse tout. Depuis 10 ans, les hôpitaux augmentent leur activité de 2 à 3% par an. Sauf qu'ils doivent augmenter cette activité sans augmenter le personnel soignant. Autrement, ils vont rentrer en déficit. Donc chaque hôpital qui est à l'équilibre, chaque hôpital qui est à l'équilibre financier, s'il n'augmente pas son activité, rentre en déficit. Lille a 30 millions de déficit. Angers, qui était à l'équilibre, a 10 millions de déficit. À Orléans, la directrice a dit « pas de pot, pas de vœux cette année, on ne fait pas de réunion parce qu'on est en déficit, c'est pas le moment de gaspiller de l'argent. Bon, » ouais, on en est. Bon. Donc il y a une espèce d'obsession à être rentable. Alors, pour le faire, on a dit ben, il faut s'organiser différemment. Donc désormais, il n'y a plus d'équipe. l'infirmière, elle ne dépend pas d'un service. Alors des fois on dit mais dans quel service je suis? Ben je suis des fois en médecine interne, des fois en diabétologie. Bon, donc un malade voit, par exemple dans l'équipe du matin, va voir dans une, s'il y reste une semaine, il va voir 3 ou 4 infirmières. Donc il y a plus de continuité de soins. Donc la qualité se dégrade. Donc évidemment quand vous perdez le sens de votre métier, l'absentéisme augmente. Donc vous avez un absentéisme qui a augmenté de 25%.
Et puis l'année dernière, les burn-out, les...
Si vous avez l'absentéisme, ceux qui travaillent disent « j'en ai marre, j'en ai marre ». C'est toujours les mêmes qui s'arrêtent. Alors, surtout, ils s'arrêtent. Bon, vous... Si vous êtes ensemble dans un bateau en train de ramer, tout le monde rame ensemble. Et puis s'il y en a un qui va mal, on dit « mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui... Pourquoi ?» Si vous êtes dans des chaînes complètement... Bon, je disais à la chef de service qui m'a remplacé « est-ce que vous faites des réunions de service ?» Elle dit « mais André, c'est quoi le service aujourd'hui ? Qui en fait partie, qui n'en fait pas partie ?» Je discutais avec une cadre du service qui me dit, absolument, maintenant on a supprimé toutes les formations, on n'a plus assez de personnel, donc il n'y a pas de formation. Donc, alors, c'est quoi la qualité des soins quand il n'y a pas de formation? Elle dit, mais je ne peux pas faire autrement. Une responsable a pu dire à des infirmières, écoutez, arrêtez de vous prendre la tête, faites votre deuil de la qualité.
Donc, ça, vous entendez
ça, qu'une responsable puisse dire à des infirmières, et elle ne disait pas ça. Avec en disant qu'elle s'en fout. Elle dit mais il n'y a pas de solution. Arrêtez de vous martyriser. Une autre cadre de santé me dit j'ai vu une infirmière pleurer parce que je peux pas. Un collègue de néphrologie à Necker me dit une infirmière est venue chez moi et elle me dit monsieur je quitte le service. Pourquoi? Parce que hier j'ai vu une mère qui pleurait et au lieu d'aller la voir pour parler avec elle je me suis détourné pour pouvoir partir. Quand je suis rentré chez moi j'ai dit, bon, bah, c'est pas possible. Bon, voilà, quand vous sentez que le sens de votre métier disparaît.
Eh bien, écoutez, professeur, justement, les initiatives se multiplient pour alerter le gouvernement. Parmi ces initiatives, eh bien, il y a eu un message posté sur Facebook fin décembre qui a fait beaucoup parler et nous allons accueillir Mathilde Basset. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière et vous êtes justement l'auteur de ce message dans lequel vous racontez votre travail en EHPAD, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. On en a beaucoup parlé depuis hier de ces EHPAD. Vous, Mathilde Basset, vous avez renoncé à ce métier d'infirmière. Pourquoi ?
Alors, en l'état actuel des choses, il est hors de question d'appeler ce métier un métier d'infirmière. On ne fait pas du soin. C'est pas ça le soin. C'est pour ça que je suis partie. Parce que entre la formation que j'ai reçue et les valeurs soignantes qu'on m'a inculquées au cours de cette formation, et le métier tel que je l'exerçais encore au mois de décembre, il y a un fossé, il y a un hiatus énorme et il est hors de question d'accepter justement de renoncer à la qualité en disant « Ok, le métier d'infirmière maintenant, c'est ça. » D'accord.
Mais concrètement, racontez-nous un peu votre quotidien. Qu'est-ce que vous avez vécu, vous, justement ? Parce que vous avez travaillé dans différents services du centre hospitalier de Cheylard, en Ardèche.
C'est ça. En fait, c'était mon troisième lieu d'exercice. Et j'ai commencé là-bas par travailler en médecine, soins de suite et réadaptation et urgence. Bon, urgence sommaire, mais urgence quand même. Cela étant, je sais que je préférais l'accompagnement et le soin d'accompagnement dans la vie quotidienne plutôt que
dans l'accompagnement psychologique plus que la mécanique, c'est ça. Hein, vous, c'était
exactement.
Vraiment l'accompagner
plutôt du soin relationnel, soin relationnel plutôt que du soin technique. Et le souci, c'est que quand on m'a proposé d'aller à l'EHPAD, alors que je connaissais déjà deux autres EHPAD dans lesquels il y avait la place pour le relationnel, là, je me réjouissais de descendre d'un étage pour aller à l'EHPAD et je me suis vite aperçu qu'en fait, il y avait juste plus le temps pour le relationnel. On est dans un lieu de vie et on n'a plus le temps de s'asseoir 5 minutes à côté d'un résident pour essayer de comprendre ce qui va pas, pourquoi il a des signes d'angoisse, pourquoi il a un moral bas. On n'a pas le temps de raconter aux familles ce qu'ont fait leurs aînés les 3 derniers jours. Enfin, on n'a plus le temps d'instiller du relationnel dans un métier qui consiste à accompagner les personnes âgées dans leur lieu de vie. Et pire encore, on demande aux résidents de 80, 90 ans, des fois plus, de s'adapter à l'organisation du service, alors que, bon, de manière générale, dans un lieu de vie, c'est bien aux soignants et à l'organisation des soins de s'organiser autour, de s'adapter au rythme du résident et pas l'inverse, surtout pas l'inverse.
Claire Delage, justement. Ouais. Restez avec nous, hein, Mathilde Basset. Claire Delage, ce manque, enfin, on néglige l'aspect humain, et ça, c'est de façon générale, hein.
Oui, c'est de façon générale, parce que justement, il y a les réductions des durées d'hospitalisation, donc là, les cadences de rythme de travail, des rythmes de travail augmentent, donc l'infirmière doit se cantonner aux gestes techniques exclusivement et abandonner tout le côté relationnel. Le côté relationnel, Monsieur Grimaldi et l'infirmière nous l'a bien expliqué, c'est la relation d'aide auprès du patient, l'accompagnement psychologique et l'écoute qui est essentiel. C'est le côté humain, c'est ce pourquoi on a fait généralement ce métier. Et il y a aussi tout l'aspect éducation du patient, éducation du patient, ce qui correspond à la prévention secondaire, hein, et qui permet aussi d'éviter les risques de complications des maladies qui sont déjà établies. Mmh. Donc ça fait partie du rôle de l'infirmière, c'est ce pour ce qu'elle a étudié pendant ses études. Et si elle ne peut pas travailler, et si elle commet des actes que sa morale réprouve, c'est-à-dire ne pas pouvoir travailler au niveau relationnel, à ce moment-là, la souffrance au travail arrive. Et on peut en arriver à des choses comme des démissions ou des burn-out ou des choses comme ça.
Justement, Mathilde Basset, vous, la souffrance au travail, c'est comme ça que vous définiriez votre quotidien ? Vous en avez souffert vraiment ?
Oui, je rentrais chez moi en pleurant, tout simplement. Je commençais ma journée en pleurant et je rentrais chez moi en pleurant. Il m'est arrivé aussi de craquer dans la chambre de résident.
Devant des patients, finalement.
Voilà, devant des résidents, ouais. À l'EHPAD, on appelle les personnes
des résidents. Des résidents, oui, c'est ça, oui.
Quoi qu'il en soit, c'était réellement une souffrance parce qu'il y a effectivement une confrontation entre sa morale, ses propres valeurs soignantes et puis la frustration de ne pas pouvoir faire son travail correctement. Mmh. Et de se résigner en laissant des soins de côté, même des soins techniques, le relationnel n'en parlons pas, mais certains soins techniques qui sont pas... qu'on n'a pas le temps de faire parce que quand on est seul pour 99 résidents, on n'a pas le temps de faire tous les pansements, de mettre tous les colliers, de donner toutes les ventolines, etc., etc. Donc forcément, il y a des, on va dire, les soins les moins prioritaires qui sautent.
Bah oui, une personne.
Et ça, c'est difficile à accepter. On est censé faire notre travail quand même consciencieusement en tant que soignant. Et là, on peut plus le faire bien. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que ça me mettait en conflit avec moi-même, on va dire.
Eh bien écoutez, merci infiniment Mathilde Basset pour ce témoignage. Docteur Sophie Crozier, malheureusement, ce type de témoignage est fréquent. Moi j'avais couvert pour RFI il y a 7-8 ans les grèves à Thenon. J'avais déjà rencontré des infirmières au bout du rouleau. C'est récurrent, on en parle depuis de nombreuses années.
Oui, c'est récurrent. Ça s'est quand même aggravé, moi je dirais, enfin, là, ces dernières années. Alors, très clairement, c'est vrai que ça s'est mis en place aussi progressivement, cette façon de gérer l'hôpital. Il y a eu deux choses. Il y a la question de la tarification, et on parle de ça aujourd'hui, et puis il y a la question qui a été bien abordée, la question que vous posiez, qui est la question du service et du travail en équipe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense qu'il y a un élément quand même majeur, c'est qu'on peut prodiguer des bons soins si on est bien traité. Moi, je ne pense pas que quelqu'un qui est maltraité institutionnellement, si on n'est pas valorisé pour ce qu'on fait, ce à quoi on croit, c'est-à-dire les valeurs du soin auxquelles on est profondément attaché, si tout ça est remis en question en permanence, si finalement on nous demande des choses qui sont totalement contraires à nos valeurs, évidemment, on arrive à des situations extrêmement difficiles. On a besoin de travailler en équipe. Travailler en équipe, ça veut dire que effectivement, il faut qu'il y ait un service, qu'un service c'est dirigé et mené par un chef de service, médecin, qui va mettre en œuvre un certain nombre de projets médicaux auxquels on va adhérer, auxquels toute l'équipe va adhérer et va se motiver. Et les contraintes, si vous voulez, les contraintes de temps, etc., de déborder notre temps de travail, on l'a toujours fait. Aussi bien les soignants, les infirmières, les aides-soignants, les médecins,
oui,
les cadres,
le
tout le monde.
Qui reviennent le lundi matin sans rechigner.
Tout le monde, on l'a toujours fait, les repos de garde.
Bien sûr.
Ça fait peu de temps. Moi, j'ai commencé mon internat et encore maintenant, je ne les prends pas toujours, mes repos de garde. Ce n'est pas le sujet. Je veux dire, on est prêt à travailler beaucoup. On a besoin simplement d'être valorisé dans notre activité et surtout qu'on reconnaisse nos valeurs. Aujourd'hui, on a l'impression de ne pas arriver à faire correctement notre travail, ce qu'a très bien dit cette infirmière, ce que dit Madame Delage également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans de telles contraintes et dans de telles exigences et demandes par rapport à cette augmentation d'activité que ça n'a aucun sens. Je vais juste vous prendre un exemple aussi très pratique, éventuellement.
Très rapidement.
Aujourd'hui, on dit effectivement qu'il faut augmenter l'activité. On prend par exemple, alors la ministre en parle, c'est très bien de promouvoir par exemple l'ambulatoire, mais quand on prend la question par exemple des hôpitaux de jour, aujourd'hui, il y a certaines activités comme les hôpitaux de jour qui sont rentables. L'hôpital hôpitaux de jour, c'est un hôpital de jour, c'est quoi ? C'est un patient qui vient sur une journée avec un certain nombre d'examens à faire. Pour pouvoir coter un hôpital de jour, il faut faire 3 examens. Et ben parfois on fait des examens qui sont utiles et d'autres qui sont pas utiles aux patients simplement pour pouvoir coter. Et c'est complètement absurde.
On va y revenir évidemment dans la deuxième partie de cette émission puisque là on arrive au terme de la première partie. On se retrouve dans un peu plus de 3 minutes après le flash info priorité santé à suivre.
Priorité santé. Igor Strauss.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la crise de l'hôpital en France suite à la publication d'une tribune signée par plus de 1200 médecins et cadres de santé. Avec cette question, qui décide aujourd'hui de l'avenir de l'hôpital, les gestionnaires ou les médecins? On dit souvent à l'impossible, nul n'est tenu. Apparemment, l'hôpital fait exception puisqu'on lui demande simultanément de ne toucher ni à l'emploi ni au nombre de lits tout en faisant plus d'économies. Et pour évoquer ce profond malaise, eh bien nous sommes toujours avec nos invités, le professeur André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris, le docteur Sophie Crozier, neurologue au service des urgences cérébrovasculaires de la Pitié-Salpêtrière, et Claire Delage, cadre de santé à l'hôpital public. Et évidemment, nous attendons vos commentaires, vos réflexions au 33 1 84 22 75 75. Docteur Sophie Crozier, vous travaillez donc dans le secteur des urgences cérébrovasculaires à la Pitié-Salpêtrière. Ce secteur des urgences que l'on présente souvent en France en état d'extrême tension, comment l'expliquer ? Quel est votre vécu ?
Voilà, le service des urgences cérébrovasculaires, c'est pas le service des urgences de l'hôpital, donc je peux peut-être, c'est plutôt la question, je pense, autour des services d'urgence générale.
Exactement. Oui, oui.
Je pense que le principal problème des urgences actuellement, c'est pas tant l'accueil des patients aux urgences encore que aussi la question de l'hospitalisation des patients et des problèmes de lits d'aval. On l'a vu récemment avec l'épidémie de la grippe, ça a été un cauchemar complet dans la majorité des hôpitaux. Je pense que les médias d'ailleurs ont bien relayé aussi cette information. Ça montre à quel point on est arrivé. Enfin, où est-ce qu'on en est arrivé? Alors, je vais vous raconter, par exemple, ce qui s'est passé, nous, dans notre hôpital. Donc, gros souci, puisque un afflux de patients qui viennent à l'hôpital. Alors, qui viennent à l'hôpital aussi, parce qu'on a un problème aujourd'hui de démographie médicale et qu'il n'y a plus de médecins en ville qui peuvent prendre en charge des pathologies qui, parfois, pourraient être prises en charge en ville. Donc, beaucoup de patients aux urgences, des patients à hospitaliser, dans un hôpital qui est déjà archi sous tension. Et en fait, on arrive à des choses qui sont totalement absurdes, mais qui ont aussi été mises en place progressivement. C'est qu'en fait, maintenant, on ne parle plus d'hospitalisation des patients, mais d'hébergement. Donc, on cherche des lits un peu partout. Les patients vont dans des services pour lesquels ils ont absolument... Enfin, on peut voir un patient. Moi, j'ai vu des patients avec des accidents vasculaires cérébraux en gynécologie. Si vous voulez, ça devient totalement absurde. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. On essaye de tout mutualiser. On met des patients là où ils ne devraient pas être. Et donc, voilà comment est-ce que ça se passe. Et puis, dans la majorité des cas, ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est que les patients restaient aux urgences. Et ça, c'est vrai de toute façon, de façon chronique. C'est-à-dire que de façon chronique, les patients ne trouvent pas de lit puisqu'on a réduit les lits d'hospitalisation traditionnels, hein, très clairement. Ça diminue le nombre de personnel, de diminuer les lits d'hospitalisation traditionnels. Le personnel, c'est le premier budget de l'hôpital. Donc, ça a quand même été une volonté ces dernières années. Pour pouvoir avoir une rentabilité de l'hôpital, il fallait diminuer le premier budget de l'hôpital, qui est le personnel. Donc, diminution de lits. Et aujourd'hui, on arrive à des choses qui sont quand même, d'un point de vue éthique, qui sont particulièrement questionnantes. C'est que des patients avec des maladies graves, chroniques, viennent mourir aux urgences. Et on n'est plus en capacité de les accueillir dans nos services. Qu'est-ce qu'on dit à des patients? Moi, je suis des patients avec des maladies neurologiques graves, avec des handicaps importants. Je vais leur dire quoi? Que je ne vais plus être capable de les accueillir, moi, dans mon service pour ces derniers moments? Quelle humanité? Comment est-ce qu'on peut voir notre pratique médicale dans des situations comme celle-là? C'est ça, notre quotidien. C'est aussi aller imaginer que nos patients on pourra même plus les rassurer, vous voyez, sur notre capacité d'accueil et de prise en charge et de soins dans des moments qui sont tout à fait essentiels.
Claire Delage, est-ce qu'il y a des services plus touchés que d'autres par ces problèmes d'effectifs, de manque de moyens, de manque de lits?
Effectivement, il y a des services plus touchés que d'autres, c'est-à-dire qu'il faut vraiment une adéquation entre le nombre de personnel et les charges en soins. S'il n'y a pas cette adéquation et sur le par rapport au nombre de lits, par rapport aux besoins des populations, s'il n'y a pas toutes ces adéquations-là, on en arrive dans des situations comme celle-ci.
Professeur Grimaldi, dans un éditorial d'un grand journal, Le Monde, pour ne pas le citer, on peut lire que l'hôpital public est un gouffre financier. Est-ce que vous approuvez ce genre de formule?
Non, c'est pas exact. On a des chiffres qui sont Inexact. Si les chiffres réels donnés par les instituts, y compris gouvernementaux, l'hôpital public, c'est 36% des dépenses de santé. Alors c'est important, 36%. On a un gros problème en France, qu'évoquait tout à l'heure Sophie Croisier. C'est qu'on n'a pas construit un service de médecine de proximité. On est en train de le faire avec les maisons de santé pluriprofessionnelles, avec quelques centres de santé. Mais ce qui fait que l'urgence, c'est l'endroit quand vous n'avez pas d'argent, ou même quand vous dites « mais il faudrait que j'ai peut-être un examen », parce que quand vous allez aux urgences de l'hôpital, vous dites « si c'est grave, je pourrais avoir l'examen radiologique, je pourrais avoir la prise de sang ». Bon, donc les urgences reçoivent 18 millions de passages par an, dont les deux tiers relèvent pas d'urgence, mais les patients, comment ils peuvent le savoir?
Pour un patient, l'urgence, c'est lui-même.
Ben, c'est lui-même. Et ça, vous avez des campagnes chaque année qui vous disent, attention, la bronchiolite, etc. Alors, pour les urgences, il faut avoir des lits vides. Il faudrait avoir des lits vides. Vous payez pas les pompiers seulement quand il y a le feu. Bon, les urgences, ça veut dire qu'on est prêt à accueillir, les brûlés.
Alors, venant.
Figurez-vous qu'en France, parfois, des grands brûlés partent en Belgique. Parce qu'on peut plus les accueillir. Donc on est dans un système fou de rentabilité où chaque lit, il va y avoir quelqu'un. Mais alors comment vous faites aux urgences? Vous dites, on attend 2-3 heures pour trouver un lit. Ben oui, mais parce que le message qui est envoyé à tous les services, vos lits doivent être pleins, en permanence. Il faut multiplier les séjours. Donc ce système est même coûteux, absurde. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous êtes dans l'insertion vasculaire et que vous êtes dans le service de gynécologie, vous devez ensuite repasser dans le service vasculaire. Bon, si en même temps, vous avez des activités programmées, mais s'il arrive des urgences, toutes vos programmations partent à l'air. Vous avez pris les rendez-vous, vous avez tout ça. Bon, tout ça devient un peu fou. Par exemple, j'ai appris que faire une radiologie d'examen de résonance magnétique, d'IRM, peut être rentable pour l'hôpital si le malade vient de l'extérieur. Donc il arrive qu'on convoque le malade pour faire son IRM, puis on le fait revenir ensuite pour être hospitalisé. Parce que c'est plus rentable que de faire l'examen pendant l'hospitalisation. Donc vous êtes dans une obsession
où c'est
parce que c'est le mode de financement qui règle l'activité médicale, alors qu'il faudrait que le financement soit adapté à l'activité médicale. On a fait l'inverse. Hein. On dit, mais ce match, je pourrais le voir en ambulatoire. Mais oui, mais attends, tu le vois, mais c'est une heure, mais c'est pas rentable. Alors mets-le en hôpital de jour. Alors comme dit, vous le mettez en hôpital de jour, mais pour que ce soit possible, il faut lui faire une IRM. Il en a pas besoin, ça fait rien. Bon, nous, ça nous est arrivé pour les soins des plaies des pieds des diabétiques, qui sont des soins complexes en ambulatoire, où le malade voit une infirmière qui doit faire, et là, c'est des actes techniques, de détertion, de pansement, un médecin spécialiste vasculaire du pied et un diabétologue. Ah, mais ça rentre pas. Alors, dans l'hôpital de jour, alors la sécurité sociale nous dit, mais si vous aviez demandé une IRM, il y aurait pas de problème, on coche la case. C'est bon pour votre hôpital, et puis vous êtes tranquille. Mais qu'est-ce que c'est que ce système? C'est un système de fou. Nous, notre éthique, c'est le juste soin pour le malade, au moindre coût pour la collectivité. Le juste soin pour le malade, ce dont il a besoin. Et au moindre coût pour la collectivité, c'est-à-dire que ce qui n'est pas utile, faut pas le faire. Tandis que opérer des thyroïdes, même quand c'est pas utile, c'est rentable pour l'hôpital.
Parce que là, on parle de solidarité nationale. Mais
Les directeurs, ils disent qu'il faut augmenter l'activité. Là, par exemple, la science publique est en déficit de 170 millions. Ce qui n'est pas si catastrophique. Son budget est 7 milliards. Quelle est la réponse qui est donnée à faire des économies? Augmenter l'activité sans augmenter le personnel. C'est la seule réponse possible dans le système. Donc maintenant c'est cassé, on arrive à fin de ce système, et il y a un nombre de gens qui disent qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut maintenant privatiser pour pouvoir choisir, peut-être l'accident vasculaire, il n'est peut-être pas rentable, alors à ce moment-là, ou alors s'il est rentable, c'est à telle condition, et voilà, ce que fait on peut pas reprocher à une clinique, là encore une fois, moi qui ai une usine à cataracte, au fond c'est peut-être très bien, c'est pas le modèle de l'hôpital. Bon.
Allez professeur, une autre illustration de cette crise dans l'hôpital public en France, nous partons à Aubagne, non loin de Marseille, dans le sud de la France donc, et nous sommes en ligne avec le docteur David Almosnino. Bonjour docteur.
Bonjour, merci de me recevoir.
C'est un plaisir. Vous êtes anesthésiste réanimateur au centre hospitalier Edmond Garcin, à Aubagne donc, et co-signataire d'une lettre à la ministre pour dénoncer la fermeture prochaine du service de réanimation. Ça, c'est une décision de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé PACA. Comment l'expliquez-vous, docteur?
On l'explique pas, c'est pour ça qu'on s'adresse à la ministre, parce que faute d'avoir rencontré l'Agence Régionale de Santé, on n'a toujours pas vraiment d'explications rationnelles. C'est une orientation qui est prise. C'est une orientation qui est prise dans beaucoup d'hôpitaux périphériques. L'hôpital public est en crise. On parle beaucoup des grandes villes, mais évidemment les hôpitaux de proximité sont très touchés aujourd'hui. Et en particulier, nous on le vit directement à Aubagne. Donc on nous propose de nous transformer un service de réanimation en unité de soins continue, c'est-à-dire Des services où on ne peut pas, évidemment, prendre en charge des patients qui sont gravement atteints. Et c'est très troublant parce qu'on a un service qui est moderne, qui a été très récemment modernisé.
En 2012, l'ARS a financé les travaux d'agrandissement pour 3,6 millions d'euros. Et aujourd'hui, on vous le ferme, c'est ça ?
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en 2012, on est passé de 6 lits à 12 lits, 8 lits de réanimation, 4 lits de soins continus, à temps médical égal. Donc là, nous, pour le coup, on a beaucoup augmenté d'activité. On a démontré cet été que fermer cette activité, c'était particulièrement préjudiciable également pour les besoins de santé des populations, mais également... pour les finances de l'hôpital, et alors que la ville d'Aubagne compte deux autorisations de réanimation actuellement, une dans une clinique, une dans un hôpital public, l'Agence régionale de santé s'apprête à laisser l'autorisation de fonctionner à la clinique et à la fermer à l'hôpital public.
Donc entre le privé et le public, l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, a choisi le privé, tout simplement.
C'est comme ça que nous on le comprend, en tout cas.
Ça, faut-il s'en inquiéter, professeur Grimaldi ? C'est quand même assez révélateur de la situation que nous sommes en train de vivre en ce moment.
Oui, c'est-à-dire que si on veut réduire les dépenses publiques, il y a un moyen simple.
C'est de basculer vers le privé.
C'est de privatiser. Alors la question, est-ce que ça coûte moins cher à la société ? Non, ça coûte plus cher. Simplement, c'est pas dans la dépense publique. C'est dépense privée. Parce que nous, on est d'accord pour dire qu'il faut que les soins soient utiles. Il y a beaucoup de soins inutiles en France. Il y a effectivement, et la ministre a la raison, il faut que une pertinence des soins, il faut que ce soit justifié. D'un endroit à l'autre, les opérations de la thyroïde, pour nodules de la thyroïde, ça va de 1 à 4. Donc peut-être qu'il y en a qui opèrent pas assez, mais il y en a qui opèrent trop, à l'évidence. Mais ce système de rentabilité pousse à ça, pousse à l'activité. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit, augmenter l'activité. Bon, donc ça, on est pour dire les soins doivent être pertinents. Je vous prends des exemples simples, parce qu'on parle que de la chirurgie, mais on dose sans arrêt la vitamine D maintenant en France, parce que tout le monde est carencé en vitamine D, très bien, alors, on dose et on redose. Ce dosage, c'est plus de 100 millions pour la Sécurité sociale, un seul examen. Bon, et on peut multiplier les exemples. Donc, ça, c'est une choix, mais c'est pas l'activité privée. Le système qui est le plus privé, c'est quand même le système américain, qui dépense 17% de sa richesse nationale pour la santé, la France c'est 11%, la France c'est pas plus que les pays riches, c'est comme l'Allemagne, c'est comme la Belgique, c'est comme le Canada, c'est comme l'Autriche, c'est comme la Suisse, bon, on dépense comme les pays riches. Le problème c'est, on pourrait même dépenser plus d'après certains économistes, à condition que ce soit des soins justes.
On répète
juste
à longueur de temps sur cette antenne
efficients.
Que les États africains devraient dépenser 15% de leur budget dans la santé, la France c'est 11%.
Mais à condition que ce soit pas des soins inutiles. Bon, on rembourse l'homéopathie. Moi, j'ai rien contre l'homéopathie si les gens trouvent que ça leur fait du bien. Est-ce que ça doit être remboursé par la Sécurité sociale ? Donc, on discutait qu'est-ce qui relève de la solidarité. Bon, et on pourrait mieux rembourser les soins d'optique. Alors, peut-être pas les montures, mais les verres. Bon, les verres doivent être remboursés. Donc, voilà, on est dans une espèce d'hypocrisie. Et le danger, c'est quoi ? C'est que, d'après ce que des économistes comme Patrick Artus, que j'ai entendu récemment, il dit, avec la situation actuelle, sur un quinquennat, on aurait 60 milliards de déficit. Soit on espère un boom économique fantastique et c'est bon, soit on augmente les impôts, il semble que ce soit pas très ça qui soit, soit on privatise. Mais privatiser, encore une fois, ça sera plus cher et plus d'inégalités. Et nous, là, de point de vue éthique, on est un peu choqués, parce que nous, notre éthique, c'est aussi de soigner tout le monde en fonction de ses besoins, quel que soit son statut social, quelle que soit son origine, tout le monde, face à la maladie, face à la mort. Il y a une égalité.
Nous sommes tous égaux, évidemment.
Mais oui, ça, c'est une éthique, mais c'est pas le cas dans beaucoup de pays, notamment aux USA. Et en France, c'est une de nos faiblesses.
Mais ça, on va y revenir, professeur Grimaldi. Je voudrais qu'on redonne la parole au docteur David Almostino à Aubagne. Vous, à Aubagne, donc, avec la fermeture prochaine de ce centre de réanimation, on avait évoqué la possibilité d'un partenariat public-privé, mais ça, vous n'en voulez pas, vous, docteur,
C'est pas tellement qu'on n'en veut pas, c'est-à-dire que nous, on est sur un établissement, on fait des gardes en anesthésie, on fait des gardes en réanimation. Donc quand on veut faire des partenariats publics-privés, il faut un site unique, parce que faire du polysite, quand on a déjà de nombreuses listes de gardes à faire, c'est rigoureusement impossible. Après, on sait que le monocite sur les partenariats publics-privés, bon, il y a eu des rapports au Sénat qui ont été faits, il y a eu des rapports de la Cour des comptes. On sait bien qu'en général, c'est pas à la faveur du public. Il faut être très prudent sur ce genre de montage. Mais ça, c'est pas de notre fait à nous, les médecins. Nous, on travaille dans les outils qu'on nous donne pour travailler. Et une réanimation, pour nous, c'est un service vraiment, c'est typiquement du service public. Et quand il existe, qui fonctionne, qui marche bien, qu'il a été est crédité avec les deniers publics, on trouve ça quand même complètement aberrant de quelques années après de le fermer pour mettre les lits à Marseille, les lits là. Aujourd'hui, nous, à Aubagne, on est le seul hôpital public à avoir une réa entre Marseille et Toulon. Aujourd'hui, à Aubagne, on est le premier hôpital de recours de Toulon. Tous les week-ends, Toulon n'a pas assez de lits de réanimation. Il faut mettre les patients quelque part, on les éloigne, on leur fait subir des transports extrêmement longs. Alors qu'ils sont dans des états graves, on demande à leurs familles de les suivre, qui sont extrêmement inquiètes. Donc c'est très compliqué. Ensuite, il faut rapatrier les patients. Ça veut dire qu'on multiplie les équipes médicales qui s'occupent d'un même patient. C'est extrêmement préjudiciable.
Mais docteur, tout ça, les décideurs devraient le savoir. Est-ce que vous avez l'impression que vous, acteur de terrain, votre avis est suffisamment pris en compte ?
Mais on a l'impression que notre avis n'est absolument pas pris en compte. Aujourd'hui, on souffre tous d'écouter un discours administratif qui est extrêmement porté sur l'économie de la santé. Donc nous, on assiste à des commissions d'établissement où on nous parle de déficit en long, en large et en travers. On nous culpabilise, on veut nous rendre responsables des histoires d'argent dans l'hôpital qui nous dépassent complètement. Nous, on est attachés aux soins, à la qualité des soins, et on parle de nos besoins, et on est à l'écoute des besoins de santé de nos populations. À partir de là, encore faut-il qu'on nous demande de nous exprimer à ce sujet, et pour réussir à obtenir des rendez-vous avec nos directions, avec l'agence régionale, il faut mettre les pieds dans la porte. Il faut mettre les pieds dans la porte. C'est très compliqué pour nous d'avoir l'impression de pouvoir faire remonter les réalités du terrain. Bon, nous, on est des praticiens dans l'hôpital, entre 8, 10, 15 ans sur l'établissement. On commence à connaître quand même très sérieusement les réalités territoriales. Et Dieu sait que la médecine de proximité est quelque chose de profondément importante. Et aujourd'hui, les hôpitaux de proximité sont vraiment un peu la cinquième roue du carrosse là, de ces affaires de santé publique. Et pourtant, il y a beaucoup de populations qui ont besoin de soins de santé au quotidien, sans avoir forcément à parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres pour se retrouver dans des gros centres, dans les grandes villes.
Eh bien écoutez, merci infiniment docteur David Almosnino. Je rappelle que vous êtes anesthésiste réanimateur au centre hospitalier Edmond Garcin à Aubagne et co-signataire d'une lettre à la ministre pour dénoncer la fermeture prochaine du service de réanimation. C'est le monsieur d'or de... Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de la crise des hôpitaux en France avec nos invités. Ils sont trois. Le professeur André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le docteur Sophie Crozier, neurologue au service des urgences cérébrovasculaires de la Pitié-Salpêtrière. Et Claire Delage, cadre de santé à l'hôpital public. Alors, on parle souvent de la gestion catastrophique des 35 heures. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça a entraîné, Sophie Crozier ? On remet souvent en cause ces fameuses 35 heures dans les hôpitaux.
C'est-à-dire que c'est arrivé dans une situation qui était déjà effectivement un peu tendue. Ce que ça a remis en cause, en fait, si vous voulez, c'est que on est du coup avec des contraintes d'organisation qui obligent finalement, enfin qui ont diminué, on va dire, le temps de présence des soignants, avec des roulements d'ailleurs. Alors ça aussi, parce que ça a été remis en place récemment, des roulements qui vise principalement a priori à rendre la situation un peu plus équitable, mais des roulements où les soignants sont amenés à travailler le matin ou l'après-midi. Donc là, on a eu, nous, une réforme aussi du temps de travail à l'hôpital récemment, qui a été catastrophique. Dans les suites, encore en plus des 35 heures, où on a finalement, ça a abouti à quelque chose dont l'objectif était non dit. Donc ça, c'est un vrai souci. L'objectif, c'était quand même de diminuer le nombre de personnels. Et on a demandé, en fait, aux soignants de changer leurs horaires. C'est-à-dire qu'il y en avait certains qui s'organisaient, qui travaillaient plutôt le matin et d'autres plutôt l'après-midi. Et maintenant, en fait, ils travaillent tantôt le matin, tantôt l'après-midi. maladie. Moi, je connais peu de gens, notamment quand on a une vie de famille, mais même quand on n'a pas une vie de famille, qui peut un jour travailler le matin, un autre jour travailler l'après-midi. Quand on a des enfants, je ne sais pas comment on peut mettre en place un système de garde, etc. C'est catastrophique. Alors nous, on a vu ça récemment se mettre en place. On nous avait dit que ça ne va pas s'accompagner de diminution de personnel. Bien sûr que si, on s'est retrouvé avec une diminution du personnel, avec du coup quelque chose, et ça a été la mise en place des pôles, qui est extrêmement délétère, il faut bien le comprendre, qui est une mutualisation du personnel. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est la mutualisation du personnel ? L'idée, évidemment, c'est qu'on puisse diminuer le nombre de personnels et puis qu'on est tous interchangeables. Depuis des années...
Sauf qu'il faut connaître les services et qu'un service de réanimation, ce n'est pas la neurologie.
Et que surtout, on est quand même, on va en parler aussi là à l'occasion des révisions de loi de bioéthique, mais on est quand même dans une évolution aujourd'hui des connaissances, des pratiques, avec des métiers qui sont de plus en plus techniques. C'est très bien, je veux dire, on a de plus en plus de possibilités à offrir en termes de traitement pour nos patients, mais c'est de plus en plus pointu et de plus en plus spécifique. Nous, par exemple, pour la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, le fait d'être prise en charge indépendamment des traitements très spécifiques, très pointus, le fait d'être prise en charge dans une unité spécialisée, ça réduit de 30% la mortalité et le handicap. 30%. Simplement d'être dans les mains de soignants, d'infirmières, d'aides-soignants qui ont l'habitude de surveiller les patients, d'éviter des complications. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment ? C'est que comme on a effectivement tout bouleversé, on se retrouve la nuit dans des situations, et ça, c'est quand même très problématique, avec des infirmières qui sont des infirmières intérimaires, des infirmières qui n'ont jamais mis les pieds dans le service.
Et des intérimaires qui finalement coûtent plus cher, finalement.
Qui coûtent plus cher à l'hôpital. Il y a les questions après, sinon, des infirmières qui font des heures supplémentaires, qui sont prêtes à le faire, qui continuent à faire des heures supplémentaires. Mais là, elles ont tout épuisé. Moi, dans mon service, elles ont épuisé leurs heures supplémentaires. Elles peuvent pas en faire plus. Donc maintenant, la nuit ou même dans la journée, on se retrouve avec des infirmières qui sont pas formées. Qui sont pas formés. Donc on est en stress permanent de se dire qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va pas y avoir une dégradation de la qualité des soins. C'est ça la réalité au quotidien. Et pour nos infirmières, c'est un stress épouvantable. Enfin, moi, j'ai mes infirmières aujourd'hui, on a une équipe extraordinaire. Elles me disent, je viens au travail avec la boule au ventre. Je vous jure, ça fait 20 ans que je suis dans cet hôpital. Enfin, 20 ans en tant que senior, plus de 30 ans puisque j'ai commencé mes études dans cet hôpital. J'ai vu les choses vraiment changer. Hein. Je veux pas avoir l'air d'être une vieille chose.
Faire du c'était mieux avant, voilà, c'est important de rappeler cette réalité.
Voilà, il faut quand même voir. Il y avait un état d'esprit, un service dans les services qui était incroyable. Moi, j'ai eu la chance d'être externe dans le service de Monsieur Grimaldi. J'en garde un souvenir incroyable. Il y avait un travail d'équipe. On était avec les soignants. On avait le temps de se poser. Par exemple, on n'a plus le temps de se poser juste pour débriefer. Imaginez-vous que tous les jours, alors nous, on a une mortalité aussi importante dans notre service.
Pour débriefer, c'est sur les cas des patients.
Mais
c'est pas pour parler de la pluie du beau temps.
Tous les matins, on fait des transmission. Eh ben non, il faut raccourcir ces temps de transmission. Les infirmières, on leur a raccourci le temps de transmission avec l'organisation du temps de travail. Alors on est là, il faut commencer à 7h36. Mais enfin, ça veut dire quoi 7h36? Vous imaginez que les infirmières, elles partent à 7h36 et pas à 7h40 et pas à 8h? Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. C'est totalement absurde. Là, on est dans quelque chose de complètement délirant.
Le temps passe très très vite. Professeur Grimaldi, quelle est la médecine que vous défendez? Des soins non standardisés, hors T2A, il faut sortir des effets pervers de cette T2A. Qu'est-ce que vous défendez dans la tribune ?
Aujourd'hui, il y a plusieurs médecines. Il y a de la chirurgie programmée. On vient des chirurgies standards ou des séances de dialyse. Ben, ça, la tarification d'activité, ça peut convenir. Ou à une période de soins. C'est très standardisé. C'est pas une gravité majeure. Et on sait bien le faire. Et ça, une tarification d'activité en période de soins convient. Les soins palliatifs, vous êtes en fin de vie. Le traitement, c'est le traitement de la douleur. C'est le traitement de confort. Et une présence humaine. Ben, un prix de journée, c'est ce qui convient. La sortie, c'est le bon Dieu qui le décide. C'est pas la tarification d'activité qui convient. C'est un prix de journée. Vous êtes dans un service de maladie chronique comme le mien. Ben, c'est une dotation globale. Avant, le patient qui était hospitalisé aujourd'hui est pris en ambulatoire. Il y a des progrès techniques en permanence. Par exemple, on dit télémédecine. Ah ben oui, mais télémédecine, moi, depuis longtemps, on fait de la télémédecine. Des infirmières qui téléphonent aux patients ou maintenant qui vous envoient les mails. Mais on dit, mais c'est pas rentable. Il n'y a pas de tarif. Alors, faut mettre un tarif. Bon, une pédiatre, diabétologue à Grenoble discute avec l'administration. L'administration lui dit, mais comment vous passez 40 minutes à répondre aux parents pour adapter les doses d'insuline des enfants? Mais c'est pas valorisé. Faut pas faire ça. Mais ça c'est. Donc si vous avez un budget global, un budget que vous gérez avec votre équipe, vous pouvez adapter et vous avez intérêt, y compris les patients qui vont bien, ils vous envoient leurs examens, vous les voyez pas. Tandis qu'en activité, faites revenir les patients. Alors, c'est ce qui se passe un peu en ville avec le paiement à l'acte. 25 euros, 15 minutes. Alors, il y en a qui vont jusqu'au bout, qui disent une question, une consultation. Deux questions, deux consultations. Mais qu'est-ce que c'est comme rapport au malade? Bon, récemment, moi, j'ai vu en ambulatoire un monsieur qui a un cancer, qui a des métastases. Il avait ses chimiothérapies, il avait 4 grammes de glycémie. J'ai dit, on va essayer de pas l'hospitaliser. Mais du coup, il faut qu'il voit l'infirmière. Il faut qu'on lui apprenne à faire ses piqûres. Il faut qu'il puisse téléphoner. Il faut qu'il puisse envoyer des mails, qu'on adapte son traitement. Ah ouais, mais c'est pas valorisé, ça.
Très rapidement, Sophie Crozet, quand on entend la ministre dire qu'on est à la fin d'un système, que la T2A, voilà, a fait son temps, est-ce qu'on peut espérer ou bah, qu'elle soit abolie tout simplement?
Ah oui, oui, oui.
Non, c'est quelque chose que vous réclamez, mais qui pourrait advenir réellement?
Ah oui, oui, oui. Enfin, moi, j'y crois beaucoup. Hein. Je pense que bon, on a la chance d'avoir une ministre de la Santé qui est médecin. On a le voilà le
oui, l'espoir. Il y en a eu d'autres, des médecins. Hein.
Il y en a eu d'autres, mais dans le contexte actuel et vu les dernières ministres qu'on a eues, c'est vrai que là, ça nous redonne un peu d'espoir. Oui, on a envie d'y croire. Et de toute façon, si on se lève tous les matins pour aller travailler, c'est qu'on a encore un peu d'espoir. Et effectivement, là, la réponse de la ministre et le fait qu'on puisse la rencontrer prochainement, effectivement, nous a satisfait. On va voir après ce qui se passe. Mais
Claire Delage, il faut aussi insister sur l'ambulatoire, la prise en charge en ambulatoire, savoir sortir plus vite de l'hôpital, c'est ça?
Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Sortir plus vite de l'hôpital, c'est plutôt le lien entre ville et hôpital. Tout à fait, il faut pouvoir travailler avec la ville et l'hôpital, voilà, pour diminuer effectivement le temps hospitalier. Mais ça laisse une prise en charge, l'aigu de la prise en charge à l'hôpital. Et ça aussi, ça augmente les charges de travail.
Professeur Grimaldi, je vous donne le mot de la fin en 30 secondes très précisément. Qu'espérez-vous de la ministre?
Ben, qu'elles comprennent qu'il faut modifier les modalités de financement, qu'il faut rediscuter de la manière dont on calcule le budget global d'un hôpital que vote chaque année l'Assemblée nationale. On peut pas voter 2% d'augmentation alors qu'il y a 4% de
frais constants pour les hôpitaux.
Voilà. Et que penser que l'hôpital repose sur les équipes de soins. C'est ça qui fait la qualité. C'est les équipes qui travaillent ensemble, qui sont habituées de travailler ensemble en nombre suffisant et formées.
La santé, c'est de l'humain avant tout. Merci,
ben oui,
professeur.
C'est, voilà, des compétences qui sont des compétences d'équipe.
Merci, professeur. Merci à vous, mesdames, d'être passées dans ce studio pour nous parler de ce sujet délicat de la crise de l'hôpital. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris, qui était réalisée par Didier Bleu et préparée par Ophélie Lassène et Sigrid Azerwal. Demain, ça sera Catherine Solano dans cette émission.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance, qui vous souhaite une bonne et heureuse année pleine d'assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.